Donc, pour reprendre ce catéchisme de l'année, on va commencer par la prière. L'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était l'existence de Dieu. Eh bien, on va considérer que vous croyez en Dieu, et que Dieu existe. Je ne vais pas vous refaire la démonstration de l'existence de Dieu. Et nous allons aller tout de suite à la prière particulière du Christ. On ne va pas aussi refaire l'histoire sainte, sinon on referait chaque année la même chose. L'histoire sainte qui nous a mené jusqu'à l'arrivée du Sauveur et de l'agneau de Dieu. L'histoire sainte qui nous a donné la prière du peuple hébreu, qui est un peuple choisi pour garder la foi au milieu des païens, et donner cette vraie foi ensuite au monde entier par la venue du Messie et du Sauveur. Et ainsi nous donner la véritable prière qui nous met en lien avec Dieu, qui rétablit cette relation entre Dieu notre Père et ses enfants. Eh bien, quand le Christ a accompli les sacrifices d'animaux, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour le péché, il l'a accompli en lui-même, qui est l'agneau immolé, mais qui prend la place d'un véritable agneau qui était immolé depuis Moïse, depuis le départ de la terre d'Égypte vers la terre sainte, la terre promise. Et donc, la messe est à la fois ce sacrifice de toujours à toujours dans la religion des hommes et dans l'adoration de Dieu, l'accomplissement des sacrifices et des prières du peuple hébreu, et la prière suprême qui nous réconcilie avec Dieu. Ainsi donc, tout se résume dans la messe. Lorsqu'on entre dans la prière de la messe, on entre dans une prière à Dieu qui est Père, et toute une partie de la messe, la partie principale de la messe, est adressée au Père, à Dieu comme ancien des jours, comme celui qui est le Tout-Puissant et qui a demandé à son Verbe éternel de se faire homme pour être le véritable agneau immolé, sacrifié pour les péchés, pour rétablir sa gloire offensée par le péché, et ainsi se réconcilier avec nous et faire de nous ses enfants à travers son Fils unique, qui devient l'un d'entre nous et notre frère aîné. C'est la raison pour laquelle, en soi, la messe et la prière dans son essence même, et lors d'une messe, on peut prier comme on prie chez soi, comme on prie en marchant, comme on prie lorsqu'on est joyeux, comme on prie quand on est triste. La messe devrait porter tous les sentiments et tous les désirs légitimes et toutes les volontés de l'être humain. Elle les résume. Alors, parfois, on est un peu arrêté par le fait que ça soit historiquement le sacrifice, un repas pascal qui fait le sacrifice qui résume tous les sacrifices. Et donc, si on n'est pas juif, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Si on n'est pas chrétien, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Et bien pourtant, lorsqu'on est quelque peu initié, mais pas au sens de choses cachées, puisque finalement, ces réalités sont ouvertes à tous les baptisés et à tous ceux qui veulent s'approcher. Il n'y a pas d'initiation stricte et sévère, puisque quand bien même lorsqu'on fait un catéchuménat et qu'il y a des étapes avant le baptême, eh bien, ces étapes, on peut les retrouver dans tous les livres, on peut les retrouver sur Internet, on peut tout voir et tout lire. Ce n'est pas ésotérique. Et le baptême de sang de notre Seigneur, la crucifixion, est dans la messe. Et donc, il est vrai que c'est les baptisés qui sont appelés à pleinement entrer dans le sacrifice eucharistique et dans la compréhension de la messe. Et nous verrons qu'en fait, la messe, c'est la prière universelle et qui attire à elle, normalement, tous les êtres. Quelles que soient les cultures et les religions dans lesquelles ils ont été éduqués, elle leur donne la vraie religion et la vraie lumière sur toutes leurs aspirations. C'est la raison pour laquelle nous retrouverons les quatre fins, les quatre buts de tout désir humain de connaître la vérité, connaître l'origine de son existence et le but de son existence, c'est-à-dire l'adoration, l'action de grâce, la demande de pardon et la demande de nouvelle grâce. Ce sont les fins qu'on appelle latrotiques, eucharistiques, pénitentielles et, comment dire, il y a un terme plus catéchétique que j'oublie. Et nous allons retrouver dans la messe ce désir qu'ont les hommes de rentrer en relation avec l'être que même ceux qui ont lutté contre la religion catholique et l'incarnation et l'Église apostolique, le fait que Dieu fait homme ait voulu des prêtres, ait voulu une vie religieuse, ait voulu qu'il y ait un sacerdoce qui le continue dans sa présence, qui célèbre justement ce sacrifice eucharistique, ce sacrifice de l'agneau de Dieu pour les siècles et qui continue sa présence par la réalité de la consécration, dans la transsubstantiation de l'essence des grains de blé écrasés et mélangés et cuits, le pain, et des grains de raisin écrasés, mélangés et fermentés, le vin. Cette multitude qui est faite une dans le pain et le vin, et cette séparation du pain et du vin, leur transsubstantié, c'est-à-dire le corps et le sang, qui signifie la mort de Jésus, et donc son sacrifice, et l'union à Dieu dans la communion, dans le fait de recevoir vivant à travers l'hostie ou le précieux sang, Jésus vivant. Tout cela accomplit l'aspiration profonde des êtres humains d'être heureux parce qu'ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Et que celui qui les a créés est un être à qui on peut parler et avec qui on peut rentrer en communication et en relation. De la même manière pour le désir que nous avons d'être en paix avec nos parents, d'être en paix avec nos frères et sœurs, d'être en paix avec notre famille, nos voisins, ceux avec qui on travaille, et que cette paix soit perpétuelle et qu'il y ait des retrouvailles après la vie terrestre. Tout cela est contenu dans la messe. Donc, je vous invite à prendre la feuille que je vous distribuais pour découvrir toutes ces parties de la messe. Alors, si on veut faire un historique de la messe, il y a des livres pour ça. Vous voyez. Je ne souhaite pas entrer dans une explication trop historique de la messe. C'est à d'autres moments, si vous voulez, qu'on peut faire cela. Et je vous donnerai, à la fin, comment dire, à la fin de la de notre petite temps, une bibliographie, sur la messe. Alors, je voudrais que nous prenions la messe en elle-même, en dehors du temps, en dehors de l'histoire, et de la lire posément et de la commenter posément. Le dimanche, il y a un rite qui n'est pas dans la messe elle-même, et qui est le début de la messe, qu'on appelle l'asperges, qui vient du premier mot latin. Et en fait, ce rite de l'aspersion avec l'eau, qui a été béni, est un rappel des prières et des aspersions de l'Ancien Testament. On était aspergé d'eau pour être purifié, on était aspergé de sang pour être purifié. Et ainsi, voyez-vous, pour commencer cette prière intense qu'est la messe, ce rite qui est coutumier, qui est parfois omis, il est dans les paroisses actuellement, en règle générale, les dimanches, il est omis, mais on le fait quand même encore pour le temps pascal, avec le vidi aquam, qui est alors à ce moment-là, il y a un chant pour la messe en français, il y a un chant, j'ai vu l'eau vive, qui sortait du côté du temple, n'est-ce pas? Eh bien, tout cela rappelle ces purifications et cette prière de purification. Alors ici, quand on entre dans la messe, ici on commence par la troisième fin, troisième but de la relation à Dieu, de la prière. C'est-à-dire qu'on se reconnaît comme pécheur. Et on a besoin que Dieu nous pardonne nos malices, nos faiblesses, nos méchancetés. Et pour s'approcher de Dieu, on lui demande son pardon. Ce pardon se fait par la prière personnelle, par l'examen de conscience, et la manière dont on expose à Dieu dans notre prière avec nos propres mots ce que nous regrettons. Mais il peut aussi s'exprimer par des rites, par des gestes symboliques qui enveloppe notre prière personnelle et ce que nous savons en détail et ce que nous regrettons en détail. Et vous êtes en pleine dispute d'héritage avec vos frères et sœurs, et vous êtes au début de la messe, vous n'allez pas penser exactement à cette dispute d'héritage, vous savez que vous êtes un peu malheureux de ne pas pouvoir vous entendre, de ne plus pouvoir vous voir pour le premier de l'an ou pour Noël, parce que ça fait 3 ans que vous êtes en procès. Mais vous êtes à une messe du dimanche, voyez. On n'actualise pas forcément ses faiblesses ou ses péchés, mais le rite, les actes rituels ne sont pas négligeables. Et quand le prêtre passe et vous asperge comme les prêtres de l'Ancien Testament, eh bien, vous savez bien que cette bénédiction particulière, elle n'est pas seulement pour vous souhaiter le bonheur et le salut futur. Sachez que le rite de l'asperges, c'est pour vos péchés. Et c'est la raison de la prière qui l'accompagne. Asperges me domine isopo et mundabor, lavabis me et super nivem de albabor. C'est un verset de psaume de David, des prières de l'Ancien Testament. Purifie-moi, enfin asperge-moi, jette de l'eau sur moi, Seigneur, avec l'hysope, c'est-à-dire avec une branche d'un arbuste qu'on utilisait parce que les feuilles sont fines et qu'elles prennent l'eau et qu'elles peuvent projeter l'eau. Ouais. Alors de nos jours, eh bien, on a amélioré la chose, on ne prend pas une feuille d'arbuste, d'hysope, mais on va prendre un goupillon en métal. Mais parfois, pour que l'eau se disperse un peu plus, on mettait des soies, hein, des poils de blaireau dans les trous de la, comment dire, du, je viens de le dire, du goupillon. Purifiez-moi, Seigneur, avec l'hysope et je serai sans tache. Lavez-moi et je deviendrai plus blanc que la neige. Et là, à nouveau, on insiste sur cette prière de regret des fautes. Miserere mei, hein. Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon votre grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Asperges mei. Et au temps pascal, eh bien, les prières se font moins explicite sur le péché, mais c'est toujours cette eau qui nous purifie, mais avec une parole de Saint Jean dans l'Apocalypse. J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du temple, Alléluia, et tous ceux que l'eau a atteints sont sauvés, et ils chantent Alléluia, Alléluia. Louez le Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Ézéchiel, je crois, a vu aussi c'est une allusion à Ézéchiel et à Saint Jean. Ensuite, vous avez les prières du prêtre qui sont toujours pour l'entrée dans la grande prière de purification et de regret des fautes. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et là, voyez-vous, ça vaut tous les bons jours du monde. Voyez. Si vous voulez, un prêtre, normalement, il ne dit pas bonjour ou au revoir à la fin d'une messe. Hein. Il dit « Le Seigneur soit avec vous ». C'est la plus belle journée, le plus bon jour que vous puissiez avoir. Et « Ite missa est », n'est-ce pas, c'est « Je vous envoie dans la prière que nous venons de partager et les grâces que nous venons de recevoir ». On n'a pas besoin de vous dire bon dimanche, oui, c'est après. C'est parce qu'on a l'impression, voyez-vous, que ce qu'on vous a dit ne suffit pas. Et qu'il faut être, il faut utiliser des mots plus ordinaires. C'est dommage, hein. Enfin, c'est impressionnant. Moi, ça m'impressionne toujours quand un prêtre, après vous avoir béni, vous dit au revoir. Vous voyez, vous bénir, c'est le plus beau souhait qu'on puisse faire. Hein, mais bon, c'est gentil, hein. Vous avez des prêtres, ils disent ça très gentiment. Bon dimanche. Enfin, il n'y a pas plus meilleur dimanche que la bénédiction du Seigneur soit sur vous. Et pas seulement au moment où je vous bénis, c'est pour la fin de la journée quand même. Enfin, et pour la semaine. Donc, bonne semaine, c'est une répétition. Vous voyez, voilà. Prions. Exaucez-nous. Alors là, on sanctifie le lieu où on va célébrer la messe. Cette prière, elle est utilisée pour bénir les maisons. Alors, je le dis pas trop parce que vous allez tous me demander de venir chacun dans votre maison pour la bénir. Enfin, ça se faisait. Et quand il y avait suffisamment de prêtres, on allait de maison en maison. Et surtout au temps pascal. Parce qu'avec l'eau qui avait été bénie pour le baptême, une partie de l'eau dans laquelle on n'avait pas mis l'huile était particulièrement bénie et c'était l'eau pascale. Et on passait dans toutes les maisons pour bénir annuellement les maisons avec l'eau pascale. Exaucez-nous, Seigneur Père Saint, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, et daignez envoyer votre Saint-Ange afin qu'il garde, soutienne, protège, visite et défende tous ceux qui sont assemblés en ce lieu. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont dit votre peuple, non, ce n'est pas la traduction. C'est « omnes habitantes inoc habitaculo », c'est-à-dire, là, on ne prie pas pour le monde entier, on prie pour ceux qui sont présents. Oui. Enfin, le peuple assemblé en ce lieu. Et c'est une traduction un peu large. Oui. Ensuite, on entre dans la messe, véritablement. Et le prêtre va dire le psaume 42. Introibo ad alors au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, quand vous assistez à la messe chantée, en général, vous connaissez pas ce psaume. Le prêtre le dit au bas des marches avant pour justement demander à nouveau pardon de ses péchés. Et pour le peuple. Ce qui fait que lorsque vous avez le chant de ce qu'on appelle l'entrée dans la messe, l'introït, qui est un verset de la Sainte Écriture, vous entendez ce chant et cela vous porte, parce que c'est un chant très spirituel qui date de siècle en siècle, quand c'est du chant grégorien, quand vous avez un... comment dire... Mais là, si vous voulez, ce psaume a été supprimé dans la messe en français, et il y a un chant d'entrée qui est choisi. Mais ici, voyez-vous, le prêtre, dans une tradition séculaire ici, insiste sur sa purification et la purification du peuple. Jugez, alors c'est un psaume que vous ne suivez pas forcément, sauf si vous venez à une messe en semaine. Là, comme il n'y a pas de chant, vous entendez cette prière où le prêtre dit « J'irai vers l'autel de Dieu, vers le Dieu qui fait la joie, qui réjouit ma jeunesse. » Quand un prêtre de 85 ans célèbre la messe, c'est toujours particulier de voir la jeunesse de l'esprit, voyez, puisque le corps, lui, n'est pas tout frais. Jugez-moi, mon Dieu, séparé. Alors, Judicam Deus et dicerne causa meam de gente non sancta. Jugez-moi, mon Dieu, et séparez ma cause de celle des impies. C'est-à-dire que je suis jugé. Mais je ne veux pas être jugé comme des personnes qui sont malicieuses et qui ne veulent pas la grâce de Dieu. Moi, je désire la grâce de Dieu. Je regrette mes fautes. Je veux la grâce. De l'homme injuste et trompeur, délivrez-moi. C'est autant l'homme extérieur que l'homme intérieur aussi. Hein. Ce psaume peut être lu d'une manière assez militaire, dans le sens c'est l'ennemi qui est extérieur, mais c'est aussi l'ennemi intérieur. De l'homme injuste et trompeur, délivrez-moi, car vous êtes ma force, mon Dieu. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Et pourquoi m'en vais-je triste lorsque l'ennemi m'afflige? Quel est notre ennemi? C'est nous-mêmes, et notre mauvaise volonté, c'est le démon et son influence, et c'est notre prochain qui nous pousse au péché. Voilà, on a trois ennemis. Et donc on est triste pendant que l'ennemi nous afflige. Mais c'est notre propre faiblesse, le démon qui est d'une paresse toute particulière et qui... Si nous sommes un ennemi à nous-mêmes, ne fait pas grand-chose et nous regarde gentiment. Voyez, et le mal que les autres peuvent nous faire, ça qui peut nous peser plus particulièrement. Envoyez votre lumière et votre vérité. Elles me conduiront vers votre montagne sainte, hein, le mont Sinaï, et vers vos tabernacles. C'est les tentes du peuple hébreu, des tentes de peau, hein, de peau de mouton. Hein, cousus ensemble font le voyage des bédouins dans le désert. Eh bien, le peuple hébreu a été nomade pendant 40 ans dans le désert. Eh bien, les tabernacles sont les tentes. Alors, j'irai vers, et là on répète, mais c'est dans le psaume lui-même, hein, j'irai vers l'autel de Dieu qui fait la joie de ma jeunesse. Je vous louerai sur la cithare. Le roi David avait lui aussi une lyre. Je vous louerai sur la cithare, Dieu, mon Dieu. Pourquoi être triste, mon âme, et pourquoi te troubler? Si un prêtre médite ce qu'il dit quand il prépare sa messe, quand il fait oraison en silence dans la journée, et même quand il prie cela, voyez, ce qui est particulier, c'est la tristesse. La tristesse, c'est le mal présent sur nous. On est triste lorsque nous souffrons d'un mal qui vient de nous, qui vient de l'extérieur. Mais la tristesse, c'est, excusez-moi, hein, c'est être malheureux. C'est pas être heureux. Hein, quand j'aurais enfoncé des portes pareilles. Mais être heureux, c'est d'être dans le bien. C'est de posséder le bonheur, être heureux. Et être triste, c'est de posséder le malheur. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on a, par exemple, on vient de subir une chimiothérapie, on vient d'avoir la séance et qu'on a la nausée, une nausée épouvantable, eh bien, on a mal. On est malade et on a très mal. Eh bien, on a le droit d'être triste. Parce que ça fait mal. Il y a un mal physique qui est là. Quelqu'un vous insulte injustement. Vous dit, vous mentez. Vous avez dit cela, mais c'est faux. Mais une caissière vous dit, vous avez voulu frauduleusement passer ce produit. Vous ne l'avez pas payé. Ou c'est le gardien du supermarché qui vient vers vous, qui dit, ça sonne, et vous dit, mais vous avez volé quelque chose? Alors, un bon vigile va dire, peut-être qu'un produit a été mal démagnétisé, est-ce qu'on peut vérifier par rapport à votre facture? Vous voyez? Mais dès qu'on atteint à notre renommée, ça nous blesse. C'est un mal. Vous voyez? Et si on a véritablement volé quelque chose et qu'on l'a mis sous son manteau, et qu'on sort du magasin et que ça sonne, et que quelqu'un vient nous dire, mais nous demande, et puis on découvre l'objet volé. Si vous voulez, si vous êtes triste, c'est parce que vous avez péché. C'est un autre mal. Il y en a qui sont pas tristes hein, d'avoir volé. Hein. Ils sont tristes d'avoir été découverts. Nuance. Ils n'ont pas de contrition, vous voyez, d'avoir volé. Mais si on vous dit que vous avez volé alors que vous n'avez pas volé, c'est votre renommée qui est abîmée et vous êtes malheureux. La tristesse, c'est de ne pas être dans ce que l'on souhaite. Et on souhaite le bien. Eh bien, au début de cette messe, le prêtre a l'occasion de dire « Pourquoi serais-je triste ? Puisque je vais monter à l'autel du Seigneur, puisque Dieu va me pardonner mes péchés, puisque Dieu va me montrer qu'il m'aime, puisque Dieu va mourir pour moi, parce que Dieu va me ressusciter pour moi. » Je dois déposer ma tristesse avant de célébrer la messe. Eh bien, c'est vrai pour tout le monde. Nous devrions, avant la messe, nous sentir, avoir une profonde espérance. C'est pour ça que il y a le sacrement de confession. Et c'est pour ça qu'on se confesse avant de communier. Et si on est dans une situation difficile, là on parle des divorcés remariés actuellement et tout cela, eh bien, on a l'espérance, d'abord que Dieu nous pardonnera avant de mourir, quelle que soit la situation complexe dans laquelle on se trouve. Parce que si on est à la messe alors qu'on est divorcé, remarié, c'est déjà qu'on veut rester en relation avec Dieu, qu'on l'aime, et que ça nous pesait d'être seul, d'être... ou d'avoir été abandonné, ou parfois même c'est nous qui sommes à l'origine du divorce, mais on le regrette, et puis la réconciliation est vraiment impossible, et puis la solitude nous pèse, et on a trouvé quelqu'un pour nous accompagner dans notre vie. Seulement, ce n'est pas la charité ultime, la plus belle charité. Et normalement, on devrait se réconcilier, faire tous nos efforts pour se réconcilier, ou on devrait rester seul, et prier pour l'être qu'on aime à nouveau, si on l'avait abandonné, ou qu'on aime quand même s'il nous a abandonné. Et ça, c'est pardonner 70 fois, 7 fois. C'est pour ça que l'Église vous dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Mais si, justement, on va quand même à la messe, voyez, de nos jours, des personnes non baptisées, ou des personnes qui sont dans une situation difficile, mais qui désirent la grâce de Dieu, viennent à la communion les bras en croix pour recevoir une bénédiction. C'est nouveau, mais finalement, cela respecte aussi la pleine cohérence et la pleine conversion d'une âme. Tant qu'elle n'est pas sortie de son épreuve, elle dit au Seigneur, je voudrais que vous veniez en moi dans une communion spirituelle, mais pour une communion franche et pleine, eh bien, si vous voulez, on sait que tout n'est pas accompli. Alors, on bénit les personnes. Et là, actuellement, justement, il y a un vrai trouble par rapport au fait de vouloir la communion à tout prix, même si on est pécheur, même si c'est un péché de faiblesse. On ne dit pas qu'on est des assassins en série ou des voleurs cyniques, vous voyez. J'ai pas tué, j'ai pas volé, donc je peux communier. Mais il y a aussi la vie, il y a aussi la relation avec les autres et l'exigence de l'amour mutuel et du pardon. Ça fait partie aussi de la vie. Alors, ici, le prêtre va dire le « Je confesse à Dieu » et nous, on va le dire après lui. Mais, voyez-vous, dans la messe chantée, finalement, il y a des personnes qui ne diront jamais « Je confesse à Dieu ». Ils vont avoir un acte de contrition à l'aspergesse, puisqu'on les purifie avec l'eau. Ils vont être portés par la prière chantée et pouvoir faire un acte de regret, mais finalement, ils ne vont pas dire le Confiteor. Pas nécessairement. Et vous avez des personnes qui ont, comment dire, qui connaissent la messe traditionnelle, qui vont à la messe traditionnelle, mais qui n'ont jamais été à la messe en semaine, et qui ne sauront jamais le Confiteor. C'est une des raisons pour laquelle le Confiteor a été, si vous voulez, ajouté avant la communion dans les siècles passés, surtout parce qu'on allait communier et qu'on nous demande de nous recueillir spécialement, eh bien, aux messes chantées, il est bon de l'avoir. Alors, à la messe basse, eh bien, ça se discute suivant le temps de la messe. Ici, normalement, une messe sans fervorino, sans petit sermon, ça devrait être 30-35 minutes. Et donc, par exemple, cette année, je pense réduire un peu les fervorino pour que la messe soit pas trop longue non plus. Une messe de semaine de 40-45 minutes, c'est trop, normalement. Hein. C'est 35 minutes, une messe de semaine. Voyez-vous ? C'est une question de temps, mais parce que nous sommes contemporains, nous sommes en 2017. Voyez. Eh bien, rajouter le Confiteor, c'est... Ça fait quand même 50 secondes en plus. Chrono, hein. Bon, c'est vrai, ça fait du coup 1 minute 30 en plus. Et psychologiquement, quand vous sortez de la messe, je dis, enfin, il est 19h42 quand même, ça peut pas au moins s'arrêter à 40, voire à 38. Oui. Eh bien, dans la messe, là, vous êtes hors du temps. Et vous êtes au Confiteor. Le prêtre le dit pour vous. Et ensuite, ceux qui servent la messe le disent pour le peuple.